l'avertissement numéro 3 du rap Grande Culture du 14 mai 2021, lu par Isabelle Fréchette. Présence du vert-gris moissonneur dans Charlevoix. Dépistage recommandé dans les zones touchées par le ravageur l'année passée. Des larves de vert-gris moissonneur ont été signalées dans les derniers jours dans un champ de luzerne et quelques champs de légumes dans la région de Charlevoix. En 2020, plusieurs champs de grandes cultures, prairies, avoine, pois, céréales, ont été infestés par les larves de vert-gris moissonneur. Le premier cas avait été rapporté au RAP à la mi-juin à Saint-Jean-Port-Joli, en Chaudière-Appalaches, puis un peu plus tard, des cas ont été rapportés dans la municipalité voisine de Sainte-Louise. Plusieurs champs de la région de Charlevoix et dans plusieurs secteurs, surtout ouest, du Bas-Saint-Laurent, La Pocatière, Saint-Denis, Kamouraska, Saint-Pascal, Rivière-du-Loup, Saint-Arsène, Saint-Hubert et Saint-Germain, ont également été affectés par le ravageur. Certaines cultures ont été complètement détruites par l'insecte. Les papillons ont pu pondre dans les champs des zones affectées l'automne passé et les œufs ont pu survivre en raison de l'hiver doux et du printemps sec. La survie des larves au printemps pourrait être aussi affectée par la présence ou non d'ennemis naturels. Les vert-gris moissonneurs s'alimentent de feuilles et de tiges en débutant par la partie la plus haute des plantes. Il est possible d'observer des larves plus matures qui coupent des plants à partir du sol. Les larves ne s'attaquent pas aux parties souterraines des plantes. Dans l'avertissement, vous pouvez voir un montage photo montrant différents types de dommages causés par le vert-gris moissonneur. Un dépistage est recommandé dans les champs attractifs pour ce ravageur, tels que les prairies, en particulier celles contenant des légumineuses comme la luzerne et le trèfle, et les champs de céréales, notamment dans les zones touchées en 2020. De fortes populations peuvent décimer un champ en l'espace de quelques jours. Méthode de dépistage. Le dépistage des champs se fait tôt le matin ou en fin de journée, car les larves sont actives pendant la nuit et donc plus faciles à observer à ces moments. L'objectif est d'observer la présence de symptômes, grignotements, brèches dans les feuilles, et de trouver des larves afin de déterminer leur taille moyenne. Les zones du champ plus sableuses et les endroits qui sont ou qui ont été infestés de mauvaises herbes depuis l'automne dernier devraient être dépistés en premier. Creuser au pied des plants grignotés est un bon moyen pour trouver les larves qui se cachent dans le sol le jour. Les larves se trouvent dans les 5 premiers centimètres de profondeur. Il est aussi important d'identifier ou faire identifier les larves. Le vert-gris moissonneur ne produit qu'une génération par année, alors que d'autres vert-gris peuvent en produire 2 ou 3. La gestion du problème peut donc être différente avec une autre espèce. La fiche du site Iris Phytoprotection sur le vert-gris moissonneur peut vous aider à identifier l'insecte. Également, le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC offre un service d'identification. Dans l'avertissement se trouve une photo montrant de près 3 chenilles du vert-gris moissonneur. Seuil d'intervention. Il n'y a pas de seuil d'intervention établi pour les grandes cultures au Québec. Voici ceux recommandés dans les prairies canadiennes. Luzerne, de 37 à 44 chenilles par mètre carré. Céréales et oléagineux, de 5 à 6 chenilles par mètre carré. Pois, de 2 à 3 chenilles par mètre carré. Haricots secs et soya, une chenille de moins de 2 cm sur 1 mètre linéaire de rang ou 20 % de plants coupés. Pour évaluer la densité des larves au champ, il est possible de dépister de 5 à 10 sections situées au pourtour des zones dénudées couvrant chacune une superficie de 50 cm par 50 cm. Les stations doivent être distancées d'environ 50 mètres les unes des autres. Pour déterminer le nombre de larves par mètre carré, il suffit de multiplier par 4 le nombre total de larves dénombrées dans tout le champ, puis de diviser par le nombre de sections dépistées. Méthode de lutte. Si un champ est complètement détruit, un ressemis peut être nécessaire, mais il est recommandé d'attendre entre 10 et 14 jours entre le moment où vous détruisez la culture et l'implantation de la nouvelle culture pour priver les larves présentes au champ de nourriture. Si vous pouvez retarder le semis d'un champ infesté, une gestion des mauvaises herbes 2 semaines avant le semis est recommandée. Dans les cas d'infestation dans des prairies, la stratégie pourrait être de devancer la fauche et limiter les pertes de rendement occasionnées par les larves. Dans le fourrage récolté, il serait possible de retrouver des larves. Toutefois, les modes de conservation, foie sec ou ensilage, vont rapidement tuer ces dernières. De plus, l'impact de la présence de larves sur l'alimentation du bétail n'est pas à craindre. Il est suggéré de visiter à nouveau les prairies lorsque le regain a commencé sa croissance, et ce pour évaluer les populations de larves et s'assurer que les larves demeurées au champ n'occasionneront pas des dommages à nouveau. Un insecticide homologué pour la culture ciblée peut être appliqué, idéalement lorsque les larves sont actives et s'alimentent, c'est-à-dire du soir au matin. Il est aussi possible d'opter pour des traitements localisés au niveau des zones endommagées et le pourtour de ces zones. Consultez le site Sage Pesticides pour connaître les produits homologués selon les cultures. Si un traitement est justifié, ce dernier doit être réalisé avant que la taille moyenne des larves n'atteigne 2,5 cm. Au-delà de cette taille, le traitement n'est plus efficace. Selon le guide « Vert gris ravageur des cultures dans les prairies canadiennes », guide d'identification et mesures de lutte applicables, les études réalisées jusqu'à maintenant ne permettent pas de cibler une pratique de travail de sol comme méthode de lutte. Le sérum conduit un projet sur les ennemis naturels du vert gris moissonneur. Si vous trouvez des larves de cette espèce, vous êtes invité à contacter votre responsable régional du RAP Grande Culture du MAPAC pour en savoir plus. Maladie des céréales. Aucun cas de rouille jaune rapporté jusqu'à maintenant, seulement quelques cas d'oïdium. La décision d'utiliser des fongicides pour protéger le feuillage du blé devrait être basée sur un suivi au champ. Si aucune ou peu de taches foliaires sont observées, un traitement hâtif entraînera non seulement des pertes économiques, mais également des risques inutiles pour la santé et pour l'environnement. De plus, la durée d'efficacité des fongicides foliaires étant de 2 à 3 semaines, ce serait donc d'autant plus dommage de traiter maintenant un champ sans symptômes et de devoir traiter à nouveau si des taches foliaires apparaissaient plus tard en saison. En ce moment, bien que d'autres maladies puissent être présentes au Québec, ce sont surtout la rouille jaune et l'oïdium, aussi appelé blanc, qui doivent être surveillés dans les champs de céréales. Jusqu'à maintenant, aucune observation de rouille n'a été rapportée. Quelques champs de blé d'automne affectés par l'oïdium en Montérégie-Est ont été signalés. Rouille jaune. L'absence de la maladie a été vérifiée dans les parcelles de blé du sérum à Saint-Mathieu-de-Belleuil en Montérégie-Est, chez le semencier Semican situé à Princeville, au centre du Québec, et dans les parcelles de recherche de l'IRDA à Saint-Lambert-de-Lauzon, situé en Chaudière-Appalaches. À partir du moment où la rouille jaune est détectée dans un champ, la fréquence de dépistage devrait être soutenue au moins 2 fois par semaine afin de pouvoir intervenir rapidement si le seuil d'intervention est atteint. Pour en savoir plus, veuillez consulter le bulletin d'information du 12 juin 2018 sur la rouille jaune. Oïdium. De l'oïdium a été observé dans quelques champs de blé d'automne en Montérégie-Est. Cette maladie se caractérise par l'apparition de colonies blancs grisâtres sur toutes les surfaces de la plante, mais les colonies sont plus apparentes sur les surfaces des feuilles du bas, dirigées vers les tiges. Deux photos montrant les symptômes de la maladie se trouvent dans l'avertissement. L'oïdium se développe au mieux dans des conditions fraîches et humides, soit à une humidité supérieure à 85 % minimum 50 % et à des températures entre 15 et 22 degrés Celsius. Un couvert très dense, refermé, qui maintient l'humidité, peut favoriser le développement de la maladie même en l'absence de précipitations. Par ailleurs, au-delà de 25 degrés Celsius, la maladie est fortement ralentie et l'infection n'a généralement pas le temps de progresser suffisamment pour être une menace pour la culture. Il faut donc suivre les températures journalières annoncées. Si des symptômes sont observés, il est important de s'assurer que les 2 ou 3 feuilles du haut des plants ne soient pas atteintes par la maladie. C'est lorsque les feuilles du haut sont atteintes que la culture peut subir une perte de rendement. Une infestation hâtive et sévère peut même entraîner des plants rabougris et qui n'épieront pas. Les champs semés tôt et les champs de céréales d'automne sont donc plus à risque. Lorsque les températures sont favorables à la maladie, en bas de 22 degrés Celsius, visitez régulièrement les champs afin de la détecter. À partir du moment où on observe des taches dans les feuilles du bas, il est recommandé de dépister le champ 2 fois par semaine puisque la maladie complète son cycle en 7 à 10 jours. Si jamais la maladie progresse dans le champ, voici quelques éléments à considérer. La résistance du cultivar à la maladie. Référez-vous au guide RGCQ. Certains cultivars sont résistants ou partiellement résistants. Une fertilisation équilibrée est une bonne pratique pour faire face à la maladie. Un apport trop important en azote favorise la propagation de la maladie. Si le cultivar est sensible, que les symptômes progressent et que le potentiel de rendement est élevé, un traitement pourrait être envisagé, mais attention, certains fongicides ne peuvent être employés qu'une fois par saison. Il est important de lire les étiquettes des produits pour connaître les restrictions d'usage, dont l'intervalle minimum entre les applications de différents produits, si jamais un traitement contre la fusariose de l'épi serait aussi nécessaire. Après l'émergence de la feuille étendard, il est recommandé de ne pas appliquer de fongicide à base de strobilurine, sauf Twinline qui est homologué pour lutter contre la fusariose, car ils peuvent augmenter le niveau de mycotoxines chez les céréales. Dans l'avertissement, vous trouvez des liens pour accéder aux listes des fongicides homologués pour lutter contre l'oïdium dans le blé d'automne, le blé de printemps et l'orge. Vous trouverez également des liens pour accéder aux listes de fongicides qui sont homologués pour lutter à la fois contre l'oïdium et la fusariose dans le blé d'automne, le blé de printemps et l'orge. Vous êtes invité à partager vos éventuelles observations d'oïdium ou de rouille jaune en contactant Isabelle Fréchette à l'adresse suivante isabelle.frechette@serum.qc.ca ou au 450-464-2715 au poste 242. Pic d'activité 2021 des adultes de la mouche des semis. La mouche des semis pond ses œufs dans le sol, près des grains de soya et de maïs, et les larves s'en nourrissent pendant la germination. Elle s'attaque aussi aux racines et aux plantules des cultures. Une forte mortalité des plantules, des manques à la levée et des retards dans la levée peuvent être des signes de la présence de ce ravageur. Au Québec, selon les normales de saison, le pic d'activité de la mouche arrive plutôt vers la fin de la période des semis et peu de champs sont affectés par cet insecte. Par contre, lorsqu'un champ est très infesté, les pertes peuvent être considérables. 2021 est une année particulière en termes de conditions météorologiques et le printemps doux a permis à la mouche des semis d'accumuler des degrés jours rapidement. Ainsi, sa période d'activité est devancée de 10 jours en moyenne. Ce ravageur pourrait être problématique, plus particulièrement pour les champs qui présentent des facteurs de risque. Le sérum travaille sur un modèle, basé sur l'accumulation de degrés jours, prédisant le pic d'activité de la mouche des semis adultes. D'après ce modèle, le pic d'activité maximal de la mouche des semis est dépassé pour la Montérégie, du 9 au 11 mai. L'activité serait à son maximum dans la Naudière et au centre du Québec, du 11 au 15 mai, ainsi qu'en Estrie et dans l'Outaouais, du 13 au 18 mai. Le pic d'activité prévisionnel pour les autres régions se situerait après le 20 mai. Pour connaître les dates de pic d'activité de la mouche des semis pour les différentes régions du Québec, vous avez dans l'avertissement un lien pour accéder à ce tableau. Principaux facteurs de risque. Il est important de connaître les facteurs de risque favorisant la mouche des semis afin de mettre en place des moyens préventifs et de lutte dans les champs les plus à risque. Amendement organique. L'épandage de fumier ou de lisier ainsi que l'incorporation de cultures de couverture ou toute autre matière végétale fraîche au printemps près de la date de semis présente un risque. Notez que le fumier de poulet appliqué 2 semaines au moins avant le semis est particulièrement attractif, tandis que les autres fumiers solides sont attractifs s'ils sont appliqués 2 jours au moins avant le semis. Travail de sol. Les champs fraîchement labourés, humides et riches en matière organique sont plus à risque que des champs sans travail de sol. Les champs sans travail de sol où seuls les résidus de soya ou de maïs sont présents ne semblent pas problématiques. Défavorable à la levée. Les semis précoces dans des conditions qui retardent la levée, froides et humides, ou des semis dans des sols lourds qui retiennent l'humidité, ralentissent la germination et l'émergence des plantes. Les semences sont donc exposées plus longtemps à la mouche des semis. Semis dans la période du pic d'activité de la mouche des semis. Un semis durant cette période, en présence des facteurs de risque listés plus haut, serait plus à risque de présenter des dommages par la mouche des semis. Ceci synchronise l'émergence des larves avec le stade vulnérable de la culture, germination et levée. La mouche des semis a moins d'impact sur la culture une fois la levée terminée, notamment lorsque la plantule n'a plus besoin du grain pour se développer. Prévention et méthode de lutte. Lorsque des dommages sont observés, il est trop tard pour intervenir contre la mouche des semis. Cependant, il est nécessaire de réaliser un diagnostic et une évaluation des dommages pour déterminer s'ils sont bien causés par ce ravageur. En cas de dommages d'importance économique liés à la mouche des semis, des stratégies préventives devront être envisagées lors du prochain semis d'une culture sensible. Amendements organiques et résidus végétaux. Si des engrais verts ou des fumiers sont incorporés au printemps, il est préférable d'attendre au moins 2 semaines avant de semer. Conditions favorisant la levée. Éviter les semis hâtifs en conditions fraîches et humides qui retardent la levée. Semer à une profondeur optimale en fonction du type de sol et de l'humidité afin de favoriser une levée rapide. Bien refermer le sillon du semis pour s'assurer d'un bon contact entre le sol et la semence. Augmenter le taux de semis dans les champs à risque permet jusqu'à un certain point de compenser les pertes potentielles. Travail de sol. Les dommages causés par la mouche des semis se produisent rarement dans les champs en semis direct. Date de semis. Évitez de semer les champs présentant des facteurs de risque lors du pic d'activité de la mouche. Si un semis doit être fait pendant le pic, il est important de mettre en place les différents moyens énumérés plus haut. Traitement de semences insecticides. Actuellement, il n'existe aucun seuil économique d'intervention pour le Québec. L'utilisation de semences traitées aux insecticides pourrait être justifiée lorsque plusieurs facteurs de risque sont présents. La grille de référence et ligne directrice concernant la recommandation sur l'utilisation des traitements de semences insecticides dans le maïs et le soya renseigne également sur les facteurs de risque et les moyens préventifs et de lutte contre la mouche des semis. Dans l'avertissement, vous trouverez le lien pour accéder à ce document. Finalement, des dommages pourraient être observés environ 2 semaines après les pics prévisionnels. Une attention particulière devra être portée à la levée dans les champs présentant des facteurs de risque. Si des dommages en lien avec la mouche des semis sont observés dans vos champs, vous pouvez rapporter ces cas en contactant le responsable régional RAP Grande Culture du MAPAC de votre région. Des dépistages pourraient être réalisés dans le cadre d'un projet de recherche sur le ravageur mené par le sérum. Dans cette section de l'avertissement, vous trouverez 2 photos, l'une représentant la mouche des semis adulte et l'autre montrant des larves s'attaquant à des grains. Et vous avez aussi des liens pour accéder à la fiche technique sur la mouche des semis durable Grande Culture et au webinaire « Mise au point des connaissances sur la mouche des semis » qui est disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC. Tipules des prairies, des dommages pourraient être visibles. Les champs infestés par la tipule des prairies présentent de larges zones jaunies ou dénudées. Afin de répertorier la présence de la tipule des prairies et des dommages aux grandes cultures dans toutes les régions du Québec, le RAP Grande Culture invite toutes les entreprises agricoles et leurs conseillers à signaler la présence de l'insecte ou de dommage en faisant parvenir une fiche de signalement remplie à l'adresse rapcerom@serum.qc.ca. La présence de larves de tipules et de dommages a été constatée cette semaine dans un champ de seigle d'automne à Lillet, en Chaudière-Appalaches. Vous êtes invité à communiquer avec votre responsable régional RAP Grande Culture du MAPAC afin de faire confirmer l'identification du problème. Sous certaines conditions, il pourrait être possible d'envoyer des échantillons au sérum pour compléter le diagnostic. À discuter avec le responsable régional. Pour obtenir plus de renseignements sur ce ravageur, vous trouverez dans l'avertissement des liens pour accéder aux publications suivantes, la fiche technique du RAP Grande Culture sur la tipule des prairies, biologie, identification et stratégie d'intervention et une fiche du laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC portant sur la distinction de la larve de la tipule des prairies d'une larve de vert-gris. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAP.